Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si nous ne sommes pas encore dans la mi-carême et dans ce moment où nous anticipons quelque peu la joie de Pâques, alors même que nous sommes dans la volonté de nous sanctifier d'une manière particulière pendant ce temps de pénitence, aujourd'hui il nous est donné l'évangile de la Transfiguration. Dans cet évangile que nous célébrons le 6 août d'une manière solennelle et dans la joie, aujourd'hui il nous est donné bien sûr comme une consolation au milieu des efforts de fidélité à la grâce pendant le carême. Et ces efforts de fidélité, eh bien, ils sont consolés par le fait même que le Christ, à trois reprises, va révéler à l'ensemble de ses apôtres, ou à Pierre, Jacques et Jean comme aujourd'hui, le fait qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Or, nous le savons bien, mais nous ne le méditons pas suffisamment, car il y a une grande conséquence dans notre vie personnelle. Nous aspirons, comme les apôtres, à ce qu'il y ait un triomphe, une paix, une prospérité et une vie paisible et calme si nous sommes fidèles à Dieu. Et si Dieu est avec nous, eh bien il est victorieux, il est fort, nous ne devrions pas être malades, nous ne devrions pas souffrir, à la limite nous ne devrions pas mourir. Et c'est la raison pour laquelle les paroles du Christ, même si elles résonnent dans les prophètes qui ont annoncé la passion du Messie, eh bien pour eux, ils sont omnibilés par la victoire du Messie. Aujourd'hui, il est bien triste de constater que des prêtres, voire des évêques, vont vous dire que tous ces miracles de l'Évangile sont à relativiser, ont peut-être été brodés. Et que peut-être est-ce un songe de la part de Pierre, Jacques et Jean. J'ai eu un jour la tristesse de lire cela sous les lignes écrites par un prêtre qui disait « Est-ce qu'ils dormaient? Est-ce qu'ils étaient éveillés ?» Et voyez-vous, la gravité de nier les miracles de l'Évangile, c'est qu'à la fin, on ne sait plus quoi croire. Alors, si Moïse apparaît en vérité, si Élie apparaît en vérité, c'est que toute cette attente du peuple hébreu est récompensée par la venue du véritable agneau pascal. Et Moïse, lui, est présent. Lui qui a tiré son peuple d'Égypte, qu'il a arraché à la superstition de la religion égyptienne avec de nombreux dieux et qui les a arrachés aussi de l'esclavage temporel, il est présent. Lui qui, pendant 40 ans, a dû porter ce peuple pour le mener en Terre Sainte. Vous avez le prophète Élie qui, lui-même, a essayé d'arracher l'idolâtrie de son peuple 600 ans avant Jésus-Christ. Moïse était 1200, 1300 ans avant Jésus-Christ. Et le prophète Élie, lui, partira pour le mont Sinaï en marchant pendant 40 jours. Tout cela semble faire sourire. Seulement lorsque Jésus ressuscite la petite fille de 12 ans, quand il ressuscite ce jeune homme, et quand il ressuscite Lazare, alors si tout est faux, bien tout est faux. Voilà donc cette vision toute particulière qui parle beaucoup à ces trois juifs que sont Pierre, Jacques et Jean. Car il y a une nuée lumineuse, un nuage qui se forme aux pieds de notre Seigneur et qui l'enveloppe, et la voix de Dieu. Cette voix de Dieu dont ils connaissent l'histoire lorsque sur le mont Sinaï, le peuple entendit cette voix, la voix du Père. Mais là, cette voix n'est pas comme sur le mont Sinaï pour impressionner un peuple pour des siècles. C'est pour dire qu'il aime son Fils. Voilà donc le Nouveau Testament et l'achèvement et l'épanouissement de l'Ancien Testament. Nous en avons bien besoin car de nos jours, nous sommes dans une société occidentale qu'on vous dit permissive, relative, relativiste en matière de mœurs, de morale. Et si l'on lit saint Paul dans ce cadre de carême bien strict, nous comprenons bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que cette pudeur de sans puritanisme fait que nous voyons se déliter le respect de notre propre corps, du corps des autres, et ces personnes humaines qui sont exposées, et ces enfants qui sont endoctrinés pour relativiser leur vie future, leur sensualité, leur sexualité. Mais justement, notre foi chrétienne dépasse toutes ces difficultés. Et on essaye d'enfermer l'Église catholique dans des dialectiques, justement, sur la pureté, sur la bioéthique. Cet enfermement, devant lequel nous devons aussi réagir en vérité, s'enfuir, même si parfois on tombe dans des pièges, nous avons à les dépasser pour bien faire comprendre à nos contemporains, comme le dit le Christ, que les prostituées nous précéderont au royaume des cieux. Et qu'en effet, ce n'est pas tant la faiblesse humaine, le désir de l'argent, de la prospérité, comme nous avons vu ce drame qui a été, puisqu'ils n'ont que ça, et qu'ils développent de cette famille où un beau-frère a tué sa sœur, le mari de sa sœur, ses deux enfants, pour de l'or. En effet, nous voyons la folie humaine, mais nous avons l'espérance. Nous avons un Dieu qui s'est fait homme pour cela et qui nous apporte une lumière. Aujourd'hui, si le Christ est transfiguré, c'est parce que sa nature humaine, dès le premier instant de sa conception, vit en Dieu. Et l'âme de Jésus est dans la vision béatifique dès sa création. La nature humaine du Christ est dans la vision béatifique. Il voit la nature divine qui est dans la personne du Fils. Voilà ce qui nous est donné. Dieu se dit, Dieu donne sa parole, son verbe, il l'appelle son Fils. Et cette parole éternelle s'unit à notre nature. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'anticipation de la résurrection, un corps glorieux et immortel. Sur la croix, Jésus laisse son corps subir la passion, alors qu'il pourrait la chasser, parce que son corps bénéficie de cette gloire de son âme. Les théologiens disent qu'il chasse à la plus fine pointe de son âme cette vision qui devrait rejaillir sur son corps en permanence. Alors aujourd'hui, il fait ce miracle devant Élie et Moïse pour accomplir les Écritures et pour que Pierre, Jacques et Jean puissent s'en souvenir. Et le vendredi saint, ils l'oublieront. Est-ce que nous-mêmes nous allons l'oublier? Si le samedi est consacré à la Vierge Marie, c'est parce que Marie ne n'oublie pas cela. Elle sait que son Fils va ressusciter. Et debout au pied de la croix, elle souffre, mais elle espère. Nous-mêmes, dans les hauts et les bas de notre vie, nous devrions avoir toujours cette lumière avoir chez soi, et je vous le disais dimanche dernier, un crucifix. Passer un an, deux ans, trois ans à chercher un crucifix beau. Un crucifix ou une image de Jésus crucifié qui touche votre cœur. Oui, un peu de sentiment, mais l'intelligence n'est jamais loin. Une belle image de Jésus vivant. Une belle image de Marie. Que vous ayez ces trois images chez vous. Et que vous puissiez, parfois sans parole, sans même dire ou prier le chapelet devant ces images pour vous aider à prier, avoir le « Je crois en Dieu », le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », mais que vous puissiez regarder la réalité. Et c'est une des oraisons possibles. Les Pères Carmes essayent de nous transmettre ce qu'ils font, 2 heures de silence par jour, sans bouger, en l'ayant un peu préparé devant le Seigneur, la présence divine, en prenant l'Évangile, en prenant toutes les vérités, en faisant une oraison aux côtés de son ange gardien, en parlant à son ange gardien, 2 heures par jour, 1 heure et 1 heure, les carmes, les carmélites. Ah, si nous pouvions rester 15 minutes en silence, chaque jour, et au-delà du carême. Vous coupez votre portable, vous résistez aux actualités sur Internet, et vous restez 15 minutes en silence, chaque jour. Oui, ensuite découlera ce qui canalise nos faiblesses, notre tempérament, de nous mettre en présence de celui qui nous donne l'existence. Et qui nous promet la vraie vie après la mort, la récompense de tous nos efforts et de toute humilité. Eh bien, c'est la Vierge Marie que nous allons suivre dans cette année du centenaire de ses apparitions à Fatima. Oui, qu'elle nous guide, elle qui a toujours été discrète, mais présente. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.